Chers frères et sœurs, je ne serai pas bien long, mais il est important effectivement de pouvoir chaque année, et à une double occasion, le jour des rameaux et le vendredi saint, eh bien, il est opportun de pouvoir entendre dans l'intégralité le récit de la passion du Seigneur. Alors, frères et sœurs bien-aimés, la liturgie des rameaux et de la passion est comme un grand porche d'entrée, un porche solennel qui nous fait passer du carême à la semaine sainte, dont le sommet sera la vigile pascale. L'heure est pour l'instant au triomphe. Jésus fait une entrée solennelle et remarquée dans Jérusalem. Toutefois, en ajoutant l'évangile de la Passion à la commémoration de cet événement, cette année, celui de saint Matthieu, l'Église nous précise qu'il faut surtout relire l'évangile des rameaux à la lumière de la croix. En ce sens, la passion de Jésus est la clé nous permettant d'accéder à une véritable compréhension de ce que signifie réellement l'événement des rameaux. Et c'est ce que j'aimerais développer avec vous. Durant 3 ans, Jésus a parcouru l'ancien royaume d'Israël à la manière d'un prophète et d'un rabbin itinérant. Depuis les rives du Jourdain, où Jean-Baptiste l'avait publiquement intronisé comme Messie d'Israël, Jésus, en effet, n'a jamais cessé de prêcher la conversion des cœurs en prévision de la venue imminente du règne de Dieu, dont les miracles qui jalonnent sa route sont les signes avant-coureurs. « Convertissez-vous, disait-il, car le royaume des cieux est tout proche. » En cela, les prodiges accomplis par Jésus accréditent son enseignement et proclament sa gloire, car à travers lui se déploie la toute-puissance divine. Et chaque fois que Jésus opère un miracle, le mal sous toutes ses formes recule. Où qu'il aille, la renommée de Jésus précède ses pas. Et pour cette 3e venue à Jérusalem, en prévision de la fête de Pâques, cette renommée atteint son paroxysme. On se bouscule, on se presse, on ajoute des rameaux et on crie « Hosanna, fils de David !» Bref, la foule déploie tout un cérémonial d'accueil qui était jadis celui qu'on déployait officiellement lorsqu'un nouveau roi d'Israël montait des bas quartiers de la ville jusqu'aux hauteurs du mont du Temple afin de recevoir l'onction du Saint-Crème des mains du grand prêtre. Jésus lui-même, contrairement à ses habitudes, lui qui est d'habitude si discret, se prête étrangement et de bonne grâce à cet enthousiasme populaire qui, néanmoins, revêt une certaine défiance politique vis-à-vis de l'autorité romaine. Cet accueil chaleureux, en effet, n'est pas sans ambiguïté quant à la compréhension même de la mission de Jésus. Est-il un messie politique venu apporter un salut temporel ? Ou bien est-il un tout autre messie venu apporter un salut spirituel ? Dans ce dernier cas, le sort politique d'Israël lui est-il pour autant indifférent ? S'il est important à ce sujet de distinguer les deux visions que peuvent avoir les foules, il ne faudrait pas non plus les opposer trop radicalement, comme nous le faisons nous-mêmes en distinguant l'État et l'Église, la loi de la République et la loi de Dieu. En effet, si Jésus s'est lui-même ostensiblement prêté à ce cérémonial, c'est que la frontière entre le politique et le religieux n'est pas aussi imperméable qu'on nous l'affirme. Et l'actualité sur la question bioéthique de la fin de vie nous le rappelle. Alors, bien entendu, le politique et le religieux jouissent chacun d'un principe d'autonomie, ce que Jésus, du reste, enseigne parfaitement lorsqu'il répond aux Hérodiens « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais il serait toutefois illusoire de penser que le politique puisse correctement exercer son autorité en fonction d'un discernement émanant de ses propres normes morales. Particulièrement quand cette autorité est appelée à s'exercer dans le cadre d'une démocratie populaire que détermine l'opinion publique. Tel est précisément le drame que nous avons pu observer à travers la lecture de la Passion. Ponce Pilate, avisé par sa femme et conscient de la manipulation des foules par les autorités religieuses de Jérusalem, aurait bien voulu sauver Jésus d'un supplice certain. Les questions religieuses dont on accuse Jésus, en effet, ne sont pas du ressort du politique. Cependant, les vociférations des uns et des autres l'acculent à adopter une posture, celle qui consiste à se déresponsabiliser de ses actes. Pilate s'en lave les mains, pourvu que l'ordre public ne soit plus du tout troublé. Et dans ce contexte, nous savons ce que signifient des troubles à l'ordre public depuis quelques semaines. En réalité, s'il ne veut pas devenir tyrannique et injuste, le pouvoir politique a besoin de s'appuyer sur le discernement qu'offre la foi. En ce sens, Dieu ne souhaite pas seulement exercer l'influence de son amour sur des consciences individuelles, mais également sur les structures sociales qui engendre une société au sein de laquelle nous sommes appelés à nous épanouir. D'où l'expression de « royaume de Dieu » que Jésus ne cesse d'employer à travers ses paraboles. Souvenez-vous, à quoi vais-je comparer le royaume de Dieu ou le royaume des cieux ? Le royaume de Dieu, en effet, n'est pas seulement une réalité intérieure à moi-même. Lorsque, par exemple, ma volonté ne s'oppose plus à celle de Dieu, c'est vrai, mais pas que. Il est aussi une réalité extérieure à moi-même, lorsque le royaume des hommes devient lui-même transfiguré par l'amour de Dieu. Associer la passion au rameau ne consiste donc pas à réduire la royauté de Jésus à la sphère du religieux et du salut éternel que les mérites de sa passion nous apportent. Autrement dit, Jésus ne règne pas seulement sur la croix, même si celle-ci est son trône. Il ne règne pas seulement aux yeux de quelques croyants qui accepteraient la loi de son évangile, mais il règne également sur le monde. Ainsi donc, au contraire, l'évangile de la Passion nous permet de saisir combien l'amour de Jésus est la norme universelle de la royauté sociale que le Christ revendique aujourd'hui et que manifestent ces rameaux qu'agitent les foules. Telle est la véritable paix qu'apporte Jésus et qui ne peut être réduite à une simple absence de trouble à l'ordre public. Retenons pour conclure que seule la charité divine est en soi capable de transfigurer les institutions sociales dont se dotent les hommes pour vivre ensemble. À ce titre, chacun de nous est appelé à devenir le ferment d'une société nouvelle, y compris dans nos propres familles, et j'en suis bien conscient, où l'opinion des uns et des autres, qu'on ne souhaite surtout pas froisser pour la tranquillité de l'ordre, nous conduisent bien souvent, nous aussi, à nous laver les mains sur le dos de celui qui pourtant nous aime comme chacun de nous n'a jamais été aimé.